Chaque week-end, sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Voici le miroir des sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger, réalisée par Ketil. Il est scientifique, physicien pour être plus précis. Il a mené des recherches dans différentes régions en France, puis a dirigé de grands laboratoires de recherche au CNRS et au CEA Grenoble. Depuis quelques années, il se met en quelque sorte au service de la communauté scientifique en contribuant au pilotage de la recherche scientifique depuis des postes à haute responsabilité au CNRS. Mais tout cela ne l'a pas empêché, et c'est l'une des raisons pour laquelle nous l'invitons, de publier des ouvrages de vulgarisation scientifique, notamment pour les enfants. Nous avons le plaisir d'accueillir Alain Schull, directeur général délégué à la science au CNRS.
Bonjour.
Alors Alain Schull, qu'est-ce que vous faites d'habitude le samedi matin à 10h? Là, on a le plaisir de vous avoir à la radio, mais...
Le samedi matin à 10h, je fais mon marché. Aujourd'hui, j'ai dû le faire plus tôt pour venir à la radio.
Ah, vous l'avez fait quand même avant de venir.
C'est un rituel obligatoire.
J'y suis passé, je vous ai pas vu aujourd'hui pourtant.
Pourtant, je t'ai cherché.
Au cours de l'émission, nous écouterons l'une des pastilles Le Monde qui vient, diffusée tout cet été sur l'antenne de RKS. Et cette semaine, c'est Amal Chabli, que vous connaissez peut-être, qui est directrice de recherche au CEA Litten et qui nous livrait, et qui était donc au micro de Sébastien, qui nous livrait cet été son point de vue sur la crise et le monde qui vient. Plus que tout au monde, il aime la pizza à l'ananas. C'est Damien Bouévin. Bonjour Damien.
Bonjour à tous.
Notre chroniqueur aujourd'hui, avec Damien, nous allons suivre chaque mois l'émergence d'un tiers-lieu dédié aux biotech. C'est le projet de Capsule à Cap-Berria. Et n'oubliez pas, tout au long de l'émission, vous pouvez réagir ou nous défier en utilisant la page Facebook de l'émission ou celle de RKS.
Alain Schull, vous êtes directeur général délégué à la recherche du CNRS. Le CNRS, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique. Après avoir dirigé pendant plusieurs années l'Institut de Physique du CNRS, tout ceci est sans doute très abstrait pour nos auditeurs et pour nous aussi un peu, il faut l'avouer. De quoi s'agit-il? Pouvez-vous déjà nous dire en quoi consistent vos missions, votre travail?
Ah, question bien délicate. En fait, le CNRS, c'est plus de 1000 laboratoires répartis sur tout le territoire et même à l'étranger. Et ces 1000 laboratoires, le CNRS est organisé en 10 instituts qui sont des instituts thématiques. Ça va de l'Institut de physique, l'Institut de biologie, l'Institut des sciences humaines et sociales. Et ces 10 instituts thématiques animent la recherche scientifique avec les partenaires, avec les universités, dans leur domaine. Mon boulot à moi, c'est de faire en sorte que les frontières qui pourraient apparaître en ayant structuré cette recherche en 10 instituts, mais n'empêche pas l'avancée de la recherche, donc de développer tout ce qui est l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, et puis aussi, j'ai aussi à ma charge tout ce qui sont les relations internationales, hein, qui éviter qu'elles soient en silo dans ces instituts.
Donc vous êtes un passeur de science en quelque sorte?
Je suis un passeur de science, on pourrait dire, un passeur. Ouais.
Et comment on arrive à un tel poste? Est-ce qu'une trajectoire comme la vôtre et l'endossement de telles responsabilités, c'est un choix totalement délibéré, ou est-ce qu'on est pris dans une espèce d'engrenage, un couloir dont on ne peut plus sortir?
La richesse du CNRS, c'est que au CNRS, on a un comité de direction qui est composé des directeurs d'institut, et ce sont tous des grands scientifiques, en fait. Donc la richesse du CNRS, c'est tous des grands scientifiques et qui n'avaient pas prévu a priori d'être à cette place-là, hein, qui ont fait une carrière et à un moment donné, on leur a demandé de changer un petit peu de métier et de s'occuper de l'animation. Et ce qui fait qu'on connaît tous ce qu'est un laboratoire, ce qu'est la recherche et ce qui nous permet de prendre des décisions qui vont dans le bon sens.
Il y a une part quand même administrative et gestion de gouvernance aussi quand on est à ce niveau-là. C'est comme un deuxième métier qu'il faut apprendre en plus du métier de chercheur, non?
La part administrative, on a un staff et puis on est aidé. Et effectivement, il y a une part souvent de prise de décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans un nœud de complexité. Il faut prendre des décisions et avoir une vision suffisamment bonne de l'avenir pour essayer de prendre les bonnes décisions. Mais c'est toujours c'est toujours dans l'esprit de soutien à nos laboratoires de recherche.
Alors justement, c'est que les chercheurs ont une grande liberté d'esprit et d'action. Est-ce que c'est difficile d'essayer d'encadrer, de prendre des décisions, d'orienter une telle communauté professionnelle?
Mon métier, c'est pas tous les matins de regarder tous les chercheurs et dire toi tu fais ça, ça marcherait pas. Le chercheur est libre et c'est ça qui fait sa richesse. Non, ben par exemple, on a eu un contrat d'objectif entre le CNRS et sa tutelle, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Et dans ce contrat d'objectif, par exemple, on a défini six grands défis sociétaux dans lesquels on peut amener une plus-value du fait de notre pluridisciplinarité. Hein. Il y en a un, il n'y a rien de bien révolutionnaire, il y a le changement climatique, par exemple. Ben, on a bien vu que sur le changement climatique, si on fait travailler ensemble des gens des sciences de l'univers et des sciences de la biodiversité, on arrivera à produire quelque chose qui sera un peu plus que ce qu'on ferait si chacun travaillait de son côté. Mon boulot à moi, c'est de les mettre en relation, de casser un petit peu les réticences qui feraient que... Et donc, c'est vraiment ça.
Et est-ce que ça correspond à une transformation profonde du CNRS et puis l'univers de la recherche, le fait d'adresser ces questions sous l'angle sociétal et de ne plus être dans des disciplines, la physique, la chimie, la biologie?
C'est assez amusant ça, parce qu'en fait, hier j'étais au Palais de la Découverte.
Où on remettait à Paris
à Paris, oui. Hier soir, on mettait le prix Jean Perrin à Hélène Fischer, qui a fait une exposition sur la vulgarisation, une exposition magnétique, Magnetica, et qui a fait quelque chose comme ça. Et donc, on a eu un exposé sur la vie de Jean Perrin. Et en 1939, hein, quand Jean Perrin a créé le CNRS, 1937, il parlait déjà de défis sociétaux, il parlait déjà d'interdisciplinarité. Donc, il n'y a rien de nouveau, en fait. Le problème, c'est que la maison est trop grosse pour ne pas être structurée. Et dès qu'on structure, dès qu'on met des boîtes, et ben naturellement les gens s'enferment dans leurs boîtes. Donc mon métier, c'est de faire en sorte que
de décloisonner. Sébastien.
Oui, je voulais un petit peu changer de sujet. Parler sans vraiment parler de la nouvelle loi sur la recherche qui est assez discutée, voire contestée par une partie de la communauté. Quels sont, selon vous, on ne va pas vraiment parler de cette loi, mais quels sont les grands points forts, les grandes faiblesses de la recherche scientifique française et comment il faut agir aujourd'hui?
La première chose qu'il faut dire, qui est unanimement reconnue par tout le monde, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dans la recherche française. Il n'y a pas assez d'argent, c'est-à-dire qu'on a décroché vis-à-vis de nos partenaires allemands, qui ont des croissances de 3% par an. Et qui...
Voilà, parce que la première étape, c'est tout le monde réclame toujours plus d'argent pour son activité. Mais là, vous dites bien, en se comparant avec des acteurs comparables comme l'Allemagne, on est décalé, c'est ça?
On est décalé et en fait, on ne demande pas de l'argent pour la recherche, on demande de l'argent parce que avoir une recherche de pointe qui soit performante, c'est un problème de souveraineté nationale. C'est un problème. Si on est aux frontières de la connaissance, alors on va pouvoir avoir la bonne propriété intellectuelle, les bonnes idées, et on va pouvoir avoir la bonne innovation qui va nous permettre d'avoir une certaine souveraineté. Donc ça, c'est la première chose qui est partagée par tout le monde. Hein. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire passer, y compris dans nos gouvernants les plus élevés, hein, puisque le Premier ministre a ouvert l'année des 80 ans du CNRS en annonçant la loi. Le président de la République est venu pour finir, pour clôturer l'année des 80 ans du CNRS.
C'était 2019.
C'était 2019, en parlant du contenu de cette loi. Et donc on ne peut que se féliciter que la société ait pris conscience de ça. Après, il y a des différences de point de vue entre ce qui est proposé dans la loi. Par exemple, on pourrait dire qu'on aurait préféré qu'il y ait une marge plus grosse au départ, avec un investissement plus important au départ qui donne. Il y a une croissance qui est limitée, mais in fine, d'ici 10 ans, il y aura 5 milliards de plus par an pour la recherche française, ce qui n'est pas négligeable.
Vous écoutez le Miroir des Sciences sur RKS et nous sommes avec Alain Schull ce matin, qui est directeur général délégué à la science au CNRS. On revient dans un instant.
Well, the It's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
Vous écoutez RKRS, l'esprit grenoblois, et c'est l'émission Le Miroir des Sciences. Nous accueillons aujourd'hui Alain Schull, directeur général délégué à la science au CNRS. Alors Alain, nous vivons depuis plus de 6 mois maintenant une crise profonde, sanitaire bien sûr, mais aussi une crise qui remet en question un ensemble de représentations sociales, d'institutions. Et parmi ces institutions, la recherche scientifique est particulièrement impliquée, questionnée. Selon vous, et sans revenir sur les polémiques qui ont secoué jusque nos communautés scientifiques elles-mêmes, qu'est-ce qui a changé ces derniers mois dans la place qu'occupe la science dans notre société ?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui ait changé dans la place qu'occupe la science.
Ou dans la vision qu'en ont les citoyens, peut-être.
Oui, alors, si, il y a quand même une interrogation, et c'est quelque chose d'assez fondamental, c'est que pendant la crise du Covid, hein, qu'on continue à vivre, on a appris, le pouvoir politique a appris à travailler avec des scientifiques. Hein, et de temps en temps, on a un peu décalé...
C'est vrai que tout le monde veut se doter d'un conseil scientifique, hein, jusqu'à la mairie de Marseille, là, maintenant. Hein.
Absolument. Alors, le problème, c'est qu'il faut que le scientifique reste à la place du scientifique. Il donne une parole qui est scientifique, et qu'après, la décision, c'est une décision politique. De temps en temps, il y a eu des mélanges. Il y a certains politiques qui ont fait prendre des décisions au conseil scientifique. Et il y a certains scientifiques, ou plutôt certains médecins, parce qu'il ne faut pas confondre la médecine et la science. Hein. Il y a certains scientifiques qui sont allés sur le terrain des prises de décisions politiques. Il faut vraiment rester chez soi. Il faut vraiment donner tout ce qu'il faut pour éclairer la décision politique. Mais pas faire que ce soit la science qui prenne la décision.
De ce point de vue, quand même, il y a une réussite formidable, il me semble, entre la science et la politique, c'est les affaires de climat. Où finalement, il y a 30 ans, 40 ans, on avait des gens dans des laboratoires qui s'intéressaient à l'évolution du climat parce que c'était une question cognitive avec des questions de connaissances fondamentales. Et parce qu'ils ont pris leur bâton de pèlerin, tout en restant campé sur de la data, de la donnée et des faits, ils ont réussi à en faire une question politique et là bientôt une question industrielle avec les services climatiques aussi. Donc il y a une sorte de passage et c'est bien sorti des laboratoires pour aller vers la sphère politique.
Ah oui, il y a eu une prise de conscience. Parce que les laboratoires avaient les data et se rendaient compte de ce qu'il fallait. Il y a une prise de conscience de l'urgence de la situation. Mais l'important, c'est que ce soit le GIEC ou que ce soit tous les groupes qui travaillent dessus, c'est de rester dans une parole qui est démontrée scientifiquement. Il y a des choses qui sont démontrées scientifiquement, il y a des choses qui sont encore en discussion entre les scientifiques. Ben, il faut mettre ça sur la table. Ça, il n'y a pas de question. Je prends une pomme, je la lâche, elle tombe. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. La Terre est ronde, elle n'est pas plate. Hein. Mais après, il y a des questions qui sont encore en discussion. Ben, elles sont encore en discussion scientifiquement. Et voilà. Un autre point, c'est qu'on a fait un programme qui était à l'initiative du président de la République, qui était Make Our Planet Great Again. On a fait venir en France des grands chercheurs, y compris des grands chercheurs américains. Et je discutais avec une chercheuse qui s'appelle Camille Parmesan, et qui, en fait, est venue en France essentiellement parce qu'aux États-Unis, elle était à Austin, elle ne pouvait plus parler en tant que scientifique. Dès qu'elle parlait, elle était vue en tant que militante. Et donc, elle ne pouvait plus faire son métier de chercheur, qui était son métier à l'origine. Donc, elle est venue en France pour pouvoir continuer à faire son métier de chercheur et avoir une parole qui était une parole scientifique.
Donc, vous diriez que les Français croient les scientifiques.
Les Français, si on regarde tous les sondages...
Est-ce que c'est parce qu'on est dans le pays des cartésiens, de l'ingénierie ?
Non, je crois qu'il y a une certaine estime des chercheurs scientifiques. Je ne parle pas des institutions. Et je parle des chercheurs scientifiques, en particulier de ceux du CNRS, parce que il y a cette liberté de parole de laquelle on parle au début, qui fait que quand ils parlent en leur nom et en ce à quoi ils croient. Et il faut garder ça. Des fois, c'est un peu compliqué pour nous, mais il faut garder ça quand même.
Il y a la parole scientifique qui doit être prise en compte par les politiques, mais les politiques ne doivent pas s'appuyer que sur la parole scientifique pour prendre leurs décisions. Il y a d'autres paramètres. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué ? Est-ce que ce n'est pas un peu embrouillé dans la tête des gens, savoir quelle place doit prendre la science dans les prises de décisions politiques ?
Ben, oui, la conférence des citoyens sur l'environnement était quand même un exemple. C'était une conférence qui était, les gens étaient éclairés scientifiquement, mais c'est effectivement, il faut prendre un certain nombre d'autres paramètres qui ne sont pas que des paramètres scientifiques. Hein. Quand on doit prendre une décision de confiner ou de ne pas confiner, bien sûr, je veux dire, si on prend que le paramètre de la pandémie et du nombre de malades, on a des intérêts, tout le monde est chacun chez lui, et puis ça. On voit bien qu'il y a d'autres conséquences, y compris médicales, mais il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences. Donc, il faut que, bah oui, c'est le rôle des politiques de prendre ces décisions qui des fois sont compliquées, mais...
Vous êtes sur RKS au Miroir des Sciences et nous recevons donc Alain Schull qui est directeur général délégué à la science au CNRS. Alain Schull, à côté de vous, je vous le présente, c'est Damien Bouévin. Il ouvre une petite boutique de science à sa façon à Grenoble. En l'occurrence, c'est un biolab et son association s'appelle Nemeton. Alors rappelez-nous, Damien, pourquoi Nemeton ?
Alors, est-ce que ça pourquoi signifie... Nemeton ? Nemeton, en fait, c'est le nom qu'on utilise pour désigner le coin de forêt sacrée où se réunissaient les druides régulièrement pour discuter philosophie et faire des trucs de druides.
Moi, je croyais que c'était la forêt des Carmutes.
Ah, il y a peut-être... le nom Nemeton a pu laisser ses traces dans l'origine étymologique de certains noms de lieux ou de forêts en France et dans les pays d'Europe de l'Ouest. Donc c'est peut-être pour ça...
C'est quoi des trucs de druides ? C'est pas des trucs de scientifiques alors, pas des trucs de chercheurs.
En fait, l'idée d'utiliser cette métaphore des druides, c'est parce que... Il y a une expression qui revient beaucoup, surtout dans le monde journalistique, pour désigner celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la biologie et font un peu de l'innovation, c'est l'expression « apprenti sorcier ». Franchement, si je comptais le nombre de fois où j'ai vu les biologistes être désignés par l'expression « apprenti sorcier », c'est vraiment très récurrent. Donc,
alors,
du coup,
Damien,
nous, on
vous parlez sous le contrôle d'Alain Schull, qui vous reprendra peut-être. Hein.
Nous, on fait de la biologie de manière innovante, un peu décalée. Donc, du coup, on assume notre aspect apprenti sorcier. C'est pour ça qu'on se réunira dans le Nemeton, qui sera notre laboratoire de biologie associatif.
Alors, on connaissait les Fab Labs. Vous, vous préparez un biolab. C'est quoi la différence ?
Un biolab est un peu comme un Fab Lab. En fait, c'est un lieu où on met à disposition de gens qui ne sont pas forcément des professionnels du secteur en question, du matériel, de laboratoire, de biologie. Ça peut être des designers, ça peut être des artistes, ça peut être tout simplement des gens qui travaillent dans l'agriculture ou dans l'agriculture urbaine et qui vont pouvoir utiliser pour leur projet personnel du matériel de laboratoire de biologie.
du matériel et puis aussi une approche avec des données. Vous évoquiez le dans les notes que vous m'avez remises pour préparer cette chronique, je vais le dire comme ça, vous avez noté relevé de données sur les animaux sauvages urbains.
C'est ça. En fait, au-delà de ça, Nemeton est une association de médiation culturelle scientifique dans le domaine de la biologie, des biotechnologies et de l'environnement. Donc, au-delà de notre biolab, même si ça reste vraiment notre projet principal depuis notre fondation il y a 2 ans, on a toute une gamme d'animations à destination principalement des jeunes de 16 à 35 ans. Et dans ces animations, on retrouve des découvertes des insectes comestibles, des ateliers pour fabriquer des microscopes extra plats, ou bien encore, effectivement, des sorties d'observation et de relevés de données sur des animaux sauvages urbains comme la tarente de Maurétanie, qui est un gecko qui s'est installé à Grenoble avec le changement climatique et que chaque été nous allons observer et compter pour faire le suivi des populations.
Alain Schull, je ne sais pas si vous habitez dans une maison ou un appartement, mais vous êtes arrivé de croiser, peut-être dans un jardin, une tarente de Maurétanie.
D'abord, j'habite dans un appartement, donc c'est un peu plus rare.
Ah, peut-être ce sont des animaux qui montent, qui grimpent.
Si je l'ai croisée, elle ne s'est pas présentée à moi, donc je ne savais pas.
Bah, la prochaine fois, si en ville, surtout au nord de Grenoble, vous croisez le soir ou la nuit un lézard avec des énormes mains et des énormes doigts qui tient accroché au mur, voire carrément sur les vitres, et bah, c'est une tarente de Maurétanie.
Alors, pour faire tout ça, Damien, vous êtes en train de construire ce que vous appelez un tiers-lieu. C'est quoi un tiers-lieu ?
Alors, un tiers-lieu, si vraiment on prend la définition de base, c'est un lieu qui n'est ni la maison, ni le travail. C'est ce lieu tiers dans lequel on pratique des activités et où, généralement, la sociabilisation a un rôle majeur. Du coup, nous, effectivement, depuis déjà 2 ans, nous sommes impliqués dans un projet de tiers-lieu à Grenoble qui s'appelle La Capsule et qui seront les nouveaux locaux de Cap-Béria, la pépinière d'association un peu historique à Grenoble, Cap-Béria. La grosse différence avec ce qui a pu être fait par le passé, c'est que dorénavant, ce lieu-là, c'est pas seulement des bureaux, mais c'est aussi des espaces d'activité. On y trouvera un café associatif, un Media Lab, 2 salles polyvalentes, des espaces de coworking, une cuisine partagée et du coup un biolab. Ce biolab qui sera géré par Nemeton.
La cuisine est bien séparée du biolab.
Oui, la cuisine est bien séparée du biolab, effectivement, on y a veillé.
Est-ce que la tarente de Maurétanie est comestible ?
Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est protégée. On n'a pas le droit de la capturer, de la vendre ou quoi que ce soit. Donc, je ne pense pas qu'on ait le droit de la manger.
Cuisiner.
Puis, il
n'y
aurait pas grand-chose à manger. Hein. 15 cm de long à tout casser, ça ne fait pas un gros
griller
repas.
Sur une brochette. Alors, on pourra visiter ce fameux tiers-lieu à quel moment ? Parce que là, les travaux commencent.
Ah bah l'histoire a été déjà longue. L'histoire a été longue, il y aura eu de l'amiante, il y aura eu des retards et accessoirement une pandémie. Mais effectivement, le gros du chantier est fini depuis cet été. Là, dorénavant, on va entamer une période de chantier participatif où on va surtout faire de la peinture. Et tout ça, ça nous mène à une ouverture courant janvier.
Et l'objectif de cette démarche, c'est aussi un petit peu de démystifier des sciences, des applications technologiques qui peuvent faire peur.
C'est ça. En fait, l'un des buts principaux derrière ce projet, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on fera de l'accompagnement de projets individuels, mais on a aussi tout un aspect où beaucoup des adhérents et adhérentes qui nous rejoignent actuellement le font pour se greffer à l'un des projets collectifs qu'on porte en tant que structure. On a un jardin expérimental où on fait pousser des tabourets en forme de tabouret. On va développer un projet collectif de travail autour des mycomatériaux, qui sont des matériaux basés sur le champignon. On va même développer un projet où on fera de la bière à l'aide d'une levure sauvage qu'on va capturer quelque part dans un parc de la ville. Vraiment, ces projets collectifs sont pour nous très important, parce qu'on est très partisans d'une, peut-être d'une nouvelle façon de faire de la médiation culturelle scientifique qui passe beaucoup plus par le faire. Au final, l'idée, c'est de montrer un peu moins la science, mais de la faire pratiquer plus, qu'elle devienne vraiment un savoir, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, manuel. C'est très mal dit, mais en tout cas, plus l'apprentissage par l'expérience de vie, en tout cas.
Alors, Alain Schull, Damien Bouévin nous décrit un lieu ou un projet qui vise à faire des sciences en fait, aux citoyens, leur parler science et puis leur faire de la science, hein, vous venez de le dire. Quelle est la position des grands organismes qui font de la science officiellement vis-à-vis de ce genre d'initiative? Est-ce qu'ils ont une position? Est-ce qu'ils les reconnaissent?
Est-ce que ça pourrait faire partie d'une série de laboratoires inspirants pour la transversalité?
Il y a plusieurs questions là. Mais disons que... Déjà la diffusion des sciences fait partie des missions du CNRS, donc on participe à beaucoup d'expériences et d'expériences qui peuvent être des expériences associatives, des expériences qui sont liées aussi entre relations entre art et science, hein, et tout ça. Donc moi, ce que j'ai entendu et en dehors des druides, j'ai quand même entendu une certaine démarche.
Ça, vous n'adhérez pas trop, hein. Le côté apprenti sorcier.
Si c'est pour attirer les gens, pourquoi pas. Si c'est après pour leur faire de la science. J'ai passé des années et des années à... J'ai écrit une rubrique de physique amusante dans Sciences et Vie Junior pendant 20 ans. J'ai passé des années et des années à faire des expériences avec le matériel que les gens avaient dans leur cuisine pour pouvoir, et pour après les attirer sur des... Donc je ne peux que... encourager ce genre de démarche.
Adhérer au faire et faire faire.
Parce qu'au moment où au moment où on fait quelque chose, il y a une espèce de moment magique où le cerveau est disponible. Et dans ces cas-là, on peut faire passer des connaissances scientifiques et beaucoup plus facilement que de manière complètement théorique.
Donc vous aussi, vous nous le confiez ce matin, vous travaillez sur le temps de cerveau disponible, en quelque sorte. Et Damien, de la même façon, quand il n'est pas en train de manger de la pizza à l'ananas, puisque c'est ce qu'il recommande,
oui.
Il vient de signer un article dans Éco-Sciences Grenoble, où il fait référence aux meilleures pizzas du monde, qui sont les pizzas à l'ananas. Vous voyez quand même que les biotechnologies sont parfois aussi inquiétantes que les sciences de l'information, l'intelligence artificielle, ou d'autres technologies de la physique. On a pour vous une série de mots, Alain Schull, pour lesquels on voudrait vous demander une définition ou une inspiration. On va les effeuiller très rapidement. Il n'y a pas d'enjeu particulier, on va voir ce que ça donne. La science.
La science, c'est l'ensemble des connaissances qu'on a sur le monde, au sens large. Ça va jusqu'aux humanités, mais c'est...
Jusqu'aux humanités, en particulier au CNRS. La recherche.
Ah oui, c'est ça. Donc la recherche, c'est autre chose, en fait. Autant la science, on sait ce qu'on sait. La recherche, en général, on se pose des questions sur ce qu'on ne sait pas et ce qu'on veut. Ce qu'on ne sait pas.
Et puis il y a une posture particulière pour la recherche.
Je disais déjà dans ses œuvres que... En matière de musique, le savant est rarement un inventeur. Mais c'est pareil pour le chercheur. Ce n'est pas forcément celui qui sait le plus de choses qui est le meilleur chercheur.
L'innovation.
L'innovation, c'est puisqu'on est aux frontières de la connaissance, on a à notre disposition des nouveautés et on se rend compte que ça pourrait servir à améliorer des process ou améliorer des... Et ça, on a le devoir de le transférer au pouvoir économique, aux industriels ou de faire des start-up pour pouvoir le transférer à la société civile. En fait.
La sérendipité.
Alors la sérendipité, c'est un mot qui est devenu à la mode depuis quelques années, mais c'est cette idée de dire que c'est pas forcément en cherche. Enfin, je veux dire, souvent, on trouve quelque chose qui est à côté de ce dont ce qu'on cherchait. C'est-à-dire qu'il y a le meilleur
Et il faut savoir en profiter.
Il faut savoir en profiter, et on doit en profiter. C'est le métier de chercheur est celui-là. C'est qu'on a le temps, et on n'a pas le droit de laisser de côté une question qui est un peu bizarre, qui serait sur le côté et qu'on aurait vu. Et c'est souvent comme ça qu'on fait les découvertes les plus impressionnantes. Röntgen, il a découvert les rayons X de cette manière-là. Et...
En photographiant plus la main de sa femme, dit-on. Ouais. Ou d'une femme, en tout cas. Peut-être de sa maîtresse. Et dernier mot pour lequel je vous demande une définition, le Centre National de la Recherche Scientifique.
Ah bah écoutez, c'est... chacun des mots est important, que c'est un centre, c'est national, donc c'est vraiment un réseau au niveau national et qui travaille qui donne aux laboratoires, qui sont, je répète, tous partagés avec nos partenaires essentiellement universitaires, donne aux laboratoires les moyens d'avancer sur la frontière des connaissances.
Vous écoutez RKS, le miroir des sciences. Nous avons le plaisir de recevoir Alain Schull, qui est directeur général délégué, décidément je n'y arriverai pas ce matin, directeur général délégué au CNRS. Il est avec nous sur RKS, on revient dans un instant.
RKS. Petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire.
Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire, nous dit Mickey 3D. Alors la science participe de ce monde qui nous adresse de plus en plus d'injonctions sur les risques, espionnage, cyberhacking, virus, pathologie, réchauffement climatique. Tout ça, ça nous mène aussi parfois à la collapsologie. Alain Schull, il y a donc tous ces messages qui émanent aussi de faits scientifiques qui sont comme des warnings, des alarmes qui clignotent, mais la science, ce sont aussi des messages positifs, l'espoir d'un meilleur, sans nous obliger à aller ailleurs.
Oui, la science n'est pas le défenseur de la collapsologie, hein. c'est pas ça du tout. Et comment je pourrais répondre à ça? Je dirais, il y avait un petit bouquin qui avait écrit que c'était mieux avant. La science a quand même permis de résoudre un certain nombre de problèmes de santé, de problèmes d'épidémie, de problèmes sur cette planète, ce qui fait qu'on vit quand même beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc il ne faut pas non plus avoir cette idée que la science va nous donner que des messages négatifs. Au contraire, elle nous permet de préparer une vie qui est meilleure pour la vie.
Une société meilleure. Alors vous avez devant vous les miroirs. C'est une petite collection que nous avons le privilège d'avoir à l'émission. On les a mis donc devant vous. Vous les avez sortis du petit sac qui les contient. Alors un miroir, c'est un objet du quotidien par excellence, mais c'est aussi un défi technologique à réaliser. Et puis, c'est aussi par excellence l'objet outil des scientifiques. Alors, lequel avez-vous choisi ?
Ben, je vais vous dire, j'en ai choisi un qui est plus un objet de scientifique qu'un objet du quotidien. C'est un petit miroir qui fait...
Mais c'est tout à votre honneur en tant que directeur de la science au CNRS.
3 cm de diamètre, et qui est visiblement, c'est... il y a une couche d'un métal qui est peut-être de l'or dessus qui permet d'avoir un effet miroir absolument...
De l'or, dites-vous, mais moi je vois un petit pavé circulaire... transparent, mais vous avez un œil spectroscopique.
Non, mais c'est je ne sais pas si c'est de l'or, mais en tous les cas, c'est jaune et ça permet d'avoir une réflexion qui est parfaite. Hein, et ça me fait penser à au prix Nobel de physique de cette année. Vous allez voir, le chemin est un peu compliqué. Mais
allez-y.
C'est qu'on a pendant 30 ans ou 35 ans développé des expériences qui s'appellent Virgo et qui étaient pour détecter les ondes gravitationnelles. Et pendant 30 ans ou 35 ans, on a mis, le CNRS a mis des moyens, pas que le CNRS, mais le CNRS a mis des moyens pour...
C'est des collaborations internationales. Hein.
C'était des collaborations internationales, mais il y a eu plusieurs moments où ça a failli s'éteindre, et on a fait ce qu'il fallait pour. Collaboration franco-italienne, essentiellement.
Non, pour que ça ne s'éteigne pas.
Pour que ça ne s'éteigne pas, absolument.
Quand même.
Et donc, là-dedans, c'est un espèce d'interféromètre. Donc, il y a des grands miroirs, des gigantesques miroirs, qui sont fabriqués avec les technologies. Et c'est ça qui fait qu'on peut détecter aujourd'hui des ondes gravitationnelles.
Grand miroir, c'est quelle taille pour donner une idée quand même
miroirs, Ils doivent faire 50 cm de diamètre. Hein, donc c'est déjà des miroirs qui sont je ne vais pas donner des chiffres, mais qui sont polis avec une précision qui est diabolique. Et surtout, ils sont tenus par des fils pour éviter toutes les vibrations. Et ils sont tenus de manière...
Encore mieux que le miroir de la méchante reine dans Blanche-Neige. Hein.
Absolument. Et maintenant, ils vont être refroidis pour améliorer. Et avec ça, on détecte les trous noirs et les fusions. C'est fabuleux. Les fusions de deux trous noirs.
Les ondes que ces chocs provoquent et ces ondes qui se propagent dans l'espace.
Absolument. Et qui sont des déformations de l'espace et qui sont... Et donc, voilà, ce miroir me fait penser à ça.
Et pourtant, il est tout petit, donc l'imagination.
Alors, le prix Nobel de physique, cette année, qui vient d'être attribué.
Il a été attribué à trois personnes, dont Penrose, qui avait fait les premiers calculs qui, en 1965, hein, qui parlait d'une singularité qui... C'était un mathématicien, hein, c'était une singularité qui était à l'origine des trous noirs.
Alors, Alain Schull, on ne va pas vous demander de nous expliquer ce que c'est qu'une onde gravitationnelle ou même un trou noir, mais ça nous permet d'évoquer maintenant...
Alors, on le demandera à Damien Bouévin une prochaine fois.
Voilà, une activité à laquelle vous vous êtes adonné, vous vous y adonnez peut-être encore un petit peu, si vous avez le temps. Qui est la transmission, la médiation, la vulgarisation scientifique. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez longtemps contribué à des journaux de vulgarisation ou mené des expériences jusqu'à la télévision, et vous avez publié plusieurs ouvrages de vulgarisation des sciences. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ce qui vous a motivé dans cette activité ?
Alors, ce qui m'a motivé... C'est en fait ce que je faisais à la fin, j'ai dû arrêter parce que j'ai pas le temps à ça. J'allais souvent dans des écoles, des classes CM1, CM2 ou dans des bibliothèques, et je faisais avec ma petite valise d'expérience. C'est une valise d'expérience où il n'y a que du matériel que vous avez dans votre cuisine. Hein. Et ce qui motive, c'est vous prenez un gamin de 10 ans, vous lui faites un. Prenez l'exemple de deux ballons, vous gonflez deux ballons de baudruche, hein, un peu gonflé et l'autre très gonflé. Vous les reliez entre eux, et c'est le petit qui va se vider dans le grand. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et à ce moment-là, il y a une fenêtre qui est ouverte où vous pouvez parler de science. Alors bien sûr, vous avez la responsabilité de parler proprement de science, de bien parler de science et de faire ça. Et là, vous êtes sûr que c'est tout ce que vous racontez est bu comme c'est pas possible, parce qu'il y a une espèce d'incompréhension. Et c'est ces regards, et c'est ces regards qui sont fabuleux, quoi.
Alors comment ces choses compliquées peuvent s'expliquer simplement ? Est-ce que vous alliez au bout des explications ? Est-ce qu'il faut déformer un peu la réalité pour la faire comprendre aux personnes novices. Est-ce que vous faites partie des gens qui considèrent que trop simplifier, c'est trahir en quelque sorte ?
Alors, en fait, il ne faut pas simplifier. Hein. C'est ça qui est compliqué. D'abord, il y a plusieurs degrés et niveaux de compréhension toujours à tous les niveaux. C'est-à-dire que, je veux dire, on ne peut pas dire qu'il n'y a, a que Einstein qui comprend la théorie de la relativité générale. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il ne faut pas simplifier. Il faut expliquer au niveau où sont les gens. Et surtout, éviter toute image qui induirait des représentations fausses dans la tête des gens à qui on parle. Il faut éviter de simplifier notre discours. Hein. Il faut rester à un niveau qui est compréhensible. Bien sûr, on ne va pas comprendre les équations mathématiques, mais qu'importe, il y a des choses qu'on peut comprendre. Moi, j'ai été aussi enseignant-chercheur pendant longtemps. On enseignait aux premières années la physique.
Alors, première année après le bac. Hein,
après le bac, précise, ouais. Première année après le bac. Et il y a beaucoup de ces étudiants qui vont quitter le système universitaire pour aller faire autre chose après. Ben, l'objectif, c'est pas de leur faire passer des connaissances par les équations, parce qu'ils les ont oubliées un quart d'heure après avoir quitté l'université. En revanche, c'est de leur laisser une compréhension de la démarche scientifique, une compréhension de quelques phénomènes. Hein. Si vous leur expliquez que vous pouvez mesurer la vitesse de la lumière avec un micro-ondes, et ben voilà, ils auront fait ça et plein de choses comme ça qui font que c'est plus la démarche scientifique qui est importante que les calculs mathématiques.
Ah, je retiens l'idée de vous réinviter pour vous donner un peu de temps et nous expliquer un peu la manip là, de la vitesse de la lumière au micro-ondes. Alors, Alain Schull, directeur général délégué à la science au CNRS, est avec nous au Miroir des Sciences. Cet été, nous avons collecté le point de vue de 30 personnalités grenobloises impliquées dans la recherche scientifique, l'éducation populaire et la politique. Diffusion quotidienne sur RKS en juillet et en août dernier, et on en profite, là c'est l'automne, on réécoute ces pastilles tout au fil de nos émissions, et aujourd'hui on écoute la pastille d'Amal Chabli, qui est donc chercheur au CEA, spécialiste des matériaux, dans un laboratoire dédié aux nouvelles technologies pour l'énergie.
Amal Chabli, bonjour. Qu'est-ce que vous inspire cette crise ?
Cette crise, c'est un phénomène parmi d'autres qui traduisent la situation de notre société. Là, à l'instant, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça me fait vraiment prendre conscience du manque de mémoire que peut avoir l'être humain face à des situations. Ce que j'ai remarqué, c'est effectivement combien les gens ont oublié ce qu'ils ont vécu pendant le confinement, que tous nous avons vécu, et combien aujourd'hui ils peuvent l'oublier. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est le rôle des rétrospectives que l'on peut faire pour aider les gens à réanimer leur mémoire.
À se souvenir.
Ouais.
Vous êtes spécialiste de caractérisation des propriétés physiques et chimiques des matériaux dans leur utilisation.
Oui.
Qu'est-ce qu'une scientifique comme vous se pose comme question aujourd'hui ?
Ce qui est hyper important pour un scientifique ça se confirme aujourd'hui, c'est quel est notre rôle ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ces recherches ? Pourquoi est-ce que on a besoin de la science dans la société ? C'est essentiel de se poser la question, quel est ce rôle ? Et de ne pas oublier ce qu'il est, celui d'augmenter la connaissance, que ce soit pour la pure connaissance anticipant peut-être ce que l'on pourrait en faire, et la connaissance pour réaliser des objets ou des dispositifs qui vont être utiles. À mon avis, il faut que l'on soit capable de faire un effort de mieux transmettre les acquis de notre connaissance. Même dans le cadre de cette crise, ça a confirmé le fait qu'on ne fait pas assez l'effort de transmettre la connaissance. Et c'est notre rôle. On apprend en faisant de la recherche, de la science. Et notre rôle, c'est de le partager avec les autres. Et ça demande un effort particulier, parce qu'on n'a pas tous le même vocabulaire, ni les mêmes acquis, et ça demande de rendre la connaissance accessible. Et ça, c'est fondamental de mon point de vue.
Notre rôle, c'est de partager avec les autres Gamal Chablis. Il faut rendre la connaissance accessible. Alors Alain Chou, je suppose que vous ne la contredirez pas. Mais à notre époque, il n'y a jamais eu autant d'informations et de connaissances accessibles, notamment pour les jeunes, à travers les réseaux. L'expression d'une telle urgence peut sembler paradoxale. Quelle est vraiment la priorité aujourd'hui ?
Voilà. C'est très important. Ça fait partie de nos missions de transférer la connaissance. Je vais prendre un exemple. Hein. On parle du grand public, mais en fait, ce qu'on a fait au CNRS, et en particulier avec Antoine Petit, le PDG du CNRS, c'est d'aller voir les députés les uns après les autres pour expliquer les paradigmes de la recherche.
Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement, quand vous parlez d'une mission de médiation, porter la science, c'est pas uniquement vers le grand public, c'est aussi vers des publics qui sont des gens qui sont des gens très informés, triés pour être les meilleurs d'entre nous, j'oserais dire, mais qui sont pas forcément, qui n'ont pas des compétences scientifiques de base pour manger tout ce que vous pouvez leur donner directement. Donc il y a de la médiation aussi
à faire.
Ils
n'ont pas des compétences scientifiques. Il y en a certains qui en ont. Mais en fait,
ils n'ont pas forcément le temps.
Ils sont pris dans une multitude de problèmes politiques. Il y a des problèmes qui sont divers et variés, qui sont avec leurs électeurs. Et la science, c'est qu'une petite partie. Ils n'ont pas une compréhension de ce que c'est que le monde scientifique, des contradictions dans lesquelles on est. Et ne serait-ce qu'aller leur expliquer ça. Et je suis sûr que ça jouait un rôle important, le fait qu'on soit allé expliquer. On a eu une réunion de la commission culturelle, celle qui s'occupe de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'Assemblée nationale, au sein du CNRS. Pour leur expliquer.
Vous les avez accueillis sur votre terrain.
Ils sont venus avec plaisir. Hein. Et ben, ça a joué un rôle dans le fait qu'aujourd'hui, ben, il y a une volonté unanime de redonner des moyens à la science par l'intermédiaire de cette fameuse loi dont on parlait tout à l'heure.
Sébastien.
Alors, nous l'avons déjà évoqué, vous avez suivi une trajectoire professionnelle assez impressionnante et vous avez encore du chemin devant vous. Comment vous voyez la suite ? Est-ce que vous allez poursuivre dans cette voie ? Est-ce que la science, disons, de terrain, l'expérimentation vous manque ? Est-ce que vous y touchez encore un petit peu ?
Alors, j'y touche plus du tout. Et je sais, la suite, pour moi, je ne sais pas quoi vous dire, parce que j'ai le plus beau métier du monde.
Ah, donc ça pourrait être que pire par la suite,
c'est ça ? J'ai le plus beau métier du monde, c'est que je rencontre dans le
domaine... Oh, vous n'êtes pas le seul.
Dans tous les domaines... des scientifiques extraordinaires. J'ai rencontré l'autre jour, j'étais à une exposition qui s'appelait Arctic Blues avec des artistes. J'ai rencontré le spécialiste mondial de la coquille Saint-Jacques. Et ben, je peux vous dire qu'au bout de 10 minutes, j'avais compris l'importance de la coquille Saint-Jacques pour la recherche scientifique, comme sentinelle des océans, pour la biodiversité, pour la pollution, comme traceur du passé avec. C'est qu'il y a des stries sur la coquille Saint-Jacques qui sont toutes les années, comme les arbres. Mais en fait, si vous regardez au microscope, tous les jours, il y a un pic de composition. Et si vous prenez des coquilles Saint-Jacques qui sont dans des sépultures, ben vous remontez à la composition de la mer il y a 5000 ans, il y a 10 000 ans.
Pratiquement avec un déroulement au quotidien.
Et dans tous les domaines, j'ai des gens qui...
Non, vous avez oublié un domaine pour la coquille Saint-Jacques, c'est la gastronomie quand même.
Aussi. Ouais, et en plus, il peut manger ses échantillons.
Je dis ça parce qu'il est 10h52 et qu'on a Francis qui prépare son émission pour 11h.
Et donc, je rencontre des gens extraordinaires qui sont fabuleux et qui, en plus, vu mon poste, sont disponibles pour me consacrer du temps. Donc, c'est absolument fabuleux.
Alors, ça nous laisse entrevoir un peu ce dilemme de la recherche scientifique qui a un champ des possibles infinis. Hein. On peut s'intéresser à tout et n'importe quoi et de manière aussi précise qu'on veut. On n'a pas parlé de votre domaine de prédilection, enfin de formation initiale, de votre pratique scientifique avant de prendre ses responsabilités. Je ne sais pas si on a le temps d'en dire un mot, mais en tout cas, si vous pouviez aujourd'hui, si on vous demandait de vous remettre à faire de la recherche et que d'un claquement de doigts, vous pouviez acquérir une expertise sur un sujet et mener de recherches sur un sujet, lequel serait-il ?
Choisir un sujet de... Alors là, c'est fabuleux. C'est
là, vous recommencez une thèse. vous êtes jeune étudiant. Choisissez.
C'est mon rêve de recommencer une thèse aujourd'hui.
Est-ce que c'est possible ?
Parce que la période de la thèse, c'est la période où on a consacré tout son temps et totalement à la recherche. sans avoir de préoccupations administratives, sans avoir d'autre chose que ça, et juste avec le rêve d'aboutir à quelque chose. Non, je retournerai quand même, vu le peu de temps qui me reste, hein, je retournerai quand même dans le domaine où j'ai quelques compétences, et me mettre au service d'une équipe qui travaille, pourquoi pas. Ouais.
Ce domaine qui est, en un mot ?
Bah, c'est l'électronique de spin. Hein, donc c'est le fait que, simplement, l'électron a un petit moment magnétique. Et donc, ce moment magnétique, ben, si on sait le manipuler et l'utiliser, ça permet de faire des fonctionnalités nouvelles pour des composants électroniques. Et ça permet de faire des mémoires magnétiques, ça permet de faire un certain nombre de choses.
Voilà, bah, sur ces mots, on comprend pourquoi vous êtes grenoblois, électronique de spin. Ça rime dans une certaine mesure avec Grenoble. Merci Alain Schull d'être venu au micro de RKS. On avait donc au miroir des sciences Alain Schull, directeur général délégué à la recherche au CNRS ce matin. Merci à vous.
Merci à vous.
On se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie.
Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours.
Et si je te pose des questions,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je te réponds,
qu'est-ce que tu diras?
Si on parle d'amour,
qu'est-ce que tu diras?
Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie.
Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours,
oh, si je te pose des questions,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je te réponds,
qu'est-ce que tu diras?
Si on parle d'amour,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Même si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi.
Véronique Sanson et Vianney, une chanson qui nous rappelle le temps où on partait en vacances avec les valises bourrées à l'arrière, personne n'avait de ceinture, l'essence coulait à flot, mais on n'avait pas la clim, juste l'autocollant européen pour se faire arrêter et tenter de gagner un chèque pour payer l'hôtel. On fumait dans l'habitacle et on ne mettait pas de crème solaire. Et rappelez-vous, on avait même le droit de s'embrasser. Une drôle de vie quand même.
C'est si vieux que ça, François.
Oui, oui. Allez, on passe à l'agenda. Ben, je vais vous donner quelques pistes de choses à faire pour le week-end. Il y a les calligraphies alpines avec Eric Alibert qui sera très très bientôt dans l'émission. Ça, c'est au musée de l'ancienne évêché. Il y a la quatrième édition du festival Ça remue dans et autour du musée dauphinois les 15, 16 et 17 octobre avec notamment Hélène Michel et son fabularium. Hélène Michel, avec qui on vous proposera une rencontre au Miroir des Sciences samedi prochain. Il y a le festival Transfo qui se poursuit, quel numérique pour la planète, avec une exposition pour un numérique plus écologique et inclusif aujourd'hui et demain à Emmaüs Connect, cette place du Jardin Hoche. Il y a la fête de la science aussi qui se poursuit, c'est un vrac de manifestation du 2 au 12 octobre. Trois dates pour ce qui nous concerne ici-bas. Demain dimanche, balade de découverte du site nucléaire du Bugey à Hyères sur Ambris. Ce soir, observation du ciel à Saint-Albin de Volserre. Et jusqu'au 21 novembre, Anthropocène alpin, une recherche esthétique et documentaire réalisée par le photographe Étienne Maury, qui était à ce micro la semaine dernière. Le reste sur fetedelascience.aura.com. Et puis enfin, un conseil pour ceux qui ne sont pas encore sortis du syndrome de la cabane, restez chez soi et regardez Simon Chupin et Damien Boivin, le duo d'Oxos de la culture scientifique, en replay sur la chaîne Mokuteza sur Twitch. Et puis encore deux autres suggestions. La Faxogel, c'est un jeu qui vient d'être mis en ligne par l'Université Paris-Saclay, et Le Prisonnier Quantique, un autre jeu qui vient de passer le cap des 100 000 joueurs au CEA. Voilà, c'est comme ça que se conclut le Miroir des Sciences. On n'a plus le temps pour dire grand-chose de plus. Je vois Kétil qui s'agite le doigt sur le bouton prêt à lancer les informations. Alain Schull, merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci à Damien Boivin qu'on retrouve dans un mois pour des nouvelles de son projet Nemeton. Merci Sébastien pour la préparation de cette émission.
Merci François.
Et puis merci à Kétil aussi pour sa réalisation. On vous retrouve la semaine prochaine sur RKS 97 FM. Voici les infos et ensuite la cuisine de Francis.